Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffon. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une interview un peu particulière. Je suis avec vous deux, Émilie et Oriane. Et on s'est demandé pendant un bon moment si on allait faire une interview, deux interviews. Bref, et au final, on a choisi une solution un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est toutes les trois ensemble, mais vous allez raconter votre histoire, chacune votre tour. Donc, tu vas commencer.
Okay. Bonjour, moi c'est Émilie. Voilà, je pense vous raconter l'histoire, mais je ne sais pas de quelle manière ça va, dans quel sens ça va aller. Moi, dans une manière chronologique, peut-être que je vais partir sur mon enfance, sur le fait de la question du genre, déjà, qui m'a posé question très tôt. Même si aujourd'hui, je suis sûre de mon genre, que je me sens bien dans le corps d'une femme et tout ça, mais je pense que quand j'étais petite, c'était un autre questionnement. J'ai plein de souvenirs hyper lointains. Par rapport à l'école, notamment, où la question du jugement des autres par rapport à ce que moi je voulais vraiment faire était hyper importante. j'ai des exemples par rapport à des jeux d'enfants où j'étais à l'école et moi je voulais me diriger plutôt vers les petites voitures et que toutes les filles allaient vers les cuisines et que je me forçais peut-être à aller vers les cuisines alors que j'avais pas envie et qu'au final, à bout d'un moment, je me suis un peu isolée et j'allais plutôt dans la bibliothèque. Alors que moi, je voulais vraiment jouer aux petites voitures. Et déjà, je trouve que avec le recul d'aujourd'hui, de me poser ces questions-là à mes 3 ans, 3, 4 ans, quoi, c'était déjà... Enfin, je trouve que c'est assez fort, en fait. Ça reflète plein de choses dans mon histoire.
Tu veux dire que déjà à 3 ans, t'avais conscience que c'est pas ça qu'on attendait de toi?
Ouais, c'est ça.
Wow.
Je me mettais déjà la pression, alors que je viens d'une famille où on m'a jamais mis la pression sur ce que je devais porter... Enfin, on dit toujours que j'étais un peu un garçon manqué. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais mes parents ne m'obligeaient pas à porter des jupes si j'avais pas envie de porter des jupes et tout ça. Mais je me suis mis moi-même cette pression-là par rapport à la société, je pense, parce que c'est vraiment pas ma famille qui m'a mis cette pression-là. Voilà. Je tremble un peu dans ma voix. Je suis un peu émue, je pense.
On serait à moi.
Ouais, non, c'est toujours.
Gros sujet, quoi.
Ouais, puis... voilà. donc ça, c'est une question qui m'a vraiment beaucoup taraudée. Et ça m'a suivi tout le long de mon parcours jusqu'à mon lycée, je crois. Et du coup, je me suis un peu isolée toute seule dans ces histoires-là, de me dire que j'étais un peu différente parce que j'avais des pensées différentes. Voilà. Je vais peut-être aller dans tous les sens, mais... Moi, au lycée, j'aurais tellement voulu voir qu'il y avait... je vais vraiment dans tous les sens. Mais...
Va dans tous les sens.
Ouais. Enfin, je me rends compte qu'aujourd'hui, les lycéens ou les collégiens même, ils sont vachement ouverts sur les questions d'homosexualité. Et qu'en fait, moi, ça me fait trop plaisir de voir à la sortie des écoles de filles qui se tiennent la main ou de garçons qui se tiennent la main sans avoir peur. Et moi, au lycée, il n'y en avait pas. Enfin, on ne savait pas... Ça m'aurait trop fait du bien, en fait, de voir ça, en fait, d'être témoin de ça et de savoir que ça existait, et voilà. Par rapport à mon enfance, c'est un peu ça, quoi. Je me suis mis moi-même la pression. Si on résume, c'est ça.
Et du coup, tu t'es isolée et du coup, tu t'es pas autorisée à faire et à être qui t'étais.
Ouais, carrément. Clairement, et en fait, c'était ça toute... Toute mon enfance, mon adolescence, et je me sentais pas à ma place parce que je faisais des choses qui ne correspondaient pas à ce que j'étais, au fond de moi. Et quitte à même avoir vécu une histoire longue avec un garçon qui s'appelait François. J'ai été 3 ans avec lui, mais on vivait pas une histoire. Enfin, moi, je pouvais rien lui apporter en termes d'affection, de sexualité, tout ça. En fait, moi, c'était. J'étais dans un truc où il fallait que je sois un peu comme tout le monde, quoi. Donc, moi, mon coming out s'est fait vraiment suite à la séparation avec François et J'ai choisi de vivre ma vie au moment où je suis partie à Paris. Voilà, c'était comme si je fuyais ma période d'enfance et que je passais à autre chose. Et c'est là que j'ai vécu ma vie de lesbienne, parce que c'était vraiment 2009, je pars à Paris, 2009, je vivais ma vie de lesbienne.
Et t'as quel âge en 2009 ?
En 2009, j'ai 27 ans.
24.
Non, 24, ouais. Non, parce que je dis 27 parce que j'ai toujours l'impression que mes 27 ans, c'était ma plus belle vie. Voilà, où je m'assumais complètement. Et moi, devenir lesbienne, c'était vraiment mon identité. J'en suis fière et je l'ai dit très facilement à mon entourage. C'est comme si, voilà, je m'ouvrais au monde et que je disais je suis lesbienne et j'en étais hyper fière de faire partie de cette communauté que je n'ai pas non plus hyper côtoyée, mais voilà, c'est une fierté, ça reste une fierté, ça reste un combat féministe pour moi aussi, d'affirmer son homosexualité. Je trouve c'est hyper militant, enfin, je trouve ça assez militant, en fait. Voilà.
Carrément. T'es OK pour reprendre un peu, parce que, voilà, moi je vois bien... Toute petite, 3 ans, tu joues pas aux petites voitures.
Je m'empêche.
Oui, ouais. T'as envie, mais tu le fais pas. Est-ce que t'as d'autres souvenirs précis de choses comme ça que tu t'es dit, ça, j'ai pas le droit ? Plus tard.
Plus tard, je sais pas. Tu veux dire dans l'adolescence ?
Ouais, dans la suite de l'enfance, dans l'adolescence.
Bah après, ça c'est... ouais, je sais pas. C'est plutôt le fait de m'affirmer dans toutes mes idées, en fait, même pas que sur mon identité, ma sexualité, tout ça, en fait, c'est que je m'empêchais après de m'affirmer qui j'étais, et du coup, je sais pas comment dire.
T'as tout verrouillé en verrouillant
ça. Ouais, et du coup, je me suis carrément renfermée, en fait, j'étais en colère après tout, et puis j'ai l'impression de pas vivre ma vie et d'être dans un truc qui est hyper fermé, quoi, enfin, c'était... comme si j'étais enfermée dans une prison qui était plutôt bienveillante. Hein. J'avais plein d'amis qui ont... voilà, je vivais dans un petit village, une famille soutenante, hein, voilà, des amis cool avec qui j'ai fait la fête, mais c'était pas ma vie, en fait. Je savais que c'était pas ma vie. Voilà. Mais pour répondre à ta question, parce que je suis allée partir complètement ailleurs, mais... de situations où je me suis empêchée... Enfin, où je me suis empêchée, je sais pas. J'arrive pas à... j'avais vraiment des situations, plein de situations où je me jugeais de jouer qu'avec des garçons, où je me disais c'est pas bien, qu'est-ce qu'on va dire de moi, en fait. J'avais honte du regard des adultes, en fait, sur moi. Sur le fait que je sois tout le temps qu'avec des garçons, que je joue au foot, que je... Voilà. Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur ce qu'on pensait de moi. En fait, voilà. Je pensais ça, surtout. Donc de... Ouais, en réfléchissant, je pense que le regard des autres est très important. Sur moi, mais je pense que c'est tout le monde. On est toujours très. Enfin, on peut toujours. Je sais pas.
Parce que tu as commencé l'interview en parlant d'identité de genre. Est-ce que du coup, pour toi, c'était comment est-ce que je peux être une fille alors que je fais des trucs qui sont considérés comme des garçons ? Ou est-ce que tu es allée jusqu'à te poser la question, est-ce que je suis vraiment une fille ? Enfin, comment ça s'est posé pour toi ? Si tu as envie d'en parler.
Ouais. Bah, moi, je pense vraiment, j'ai une période, je sais pas, vers mes 6-7 ans, où j'aurais vraiment aimé être un garçon. Je trouvais ça vachement plus cool. Je trouvais qu'ils étaient peinards, qu'ils étaient vachement plus libres, en fait. Et quand ils repensent, je sais pas, c'était assez, c'est déjà clair, bien, hein. C'était bien vu, en fait, parce que, ouais, avec le regard qu'on a aujourd'hui, on sait qu'ils sont beaucoup plus libres que nous, puisqu'on leur laisse des libertés que nous n'avons pas, peut-être. Mais ouais, en fait, après, je sais plus quelle était ta question, mais...
Bah, c'est comment, en quels termes tu t'es posé ces questions depuis ton cerveau d'enfant, puis d'ado, enfin, est-ce que tu t'es demandé si ton comportement, il était pas adéquat parce que t'es une fille, ou est-ce que oui, tu t'es dit que t'avais pas eu le bon genre, ou est-ce que, enfin, comment, à quoi ça ressemblait tes pensées, si tu t'en souviens?
Enfin, c'était vraiment que des pensées où je me jugeais, mais j'étais pas dans une souffrance telle que je me disais, je m'étais pas bien dans mon corps, vraiment. Mais je me disais que j'avais vraiment envie d'être un garçon, de me comporter comme un garçon, en fait. Et mais, genre, moi, j'avais deux grandes sœurs et je pense qu'elles se moquent toujours un peu de moi, de mes manières où. Enfin, elle me rappelle toujours que j'avais des petits polos, je mettais une fleur dans ma poche de mon polo pour faire comme les garçons, enfin, tu sais, dans les trucs de l'imaginaire un peu. Mais je me suis pas dit, je voulais avoir le comportement, je voulais vraiment, je crois que c'est ça aujourd'hui, c'est je voulais avoir la liberté des garçons, quoi. Je crois que j'avais déjà senti que les filles, on devait rentrer dans un truc de gentille petite fille douce, sage, propre sur elle, qui obéit, qui est sage, quoi, en fait, qui doit être propre. Moi, j'étais toujours sale. J'étais, voilà, et je trouvais ça plus cool. Et pour le coup, je remercie mes parents là-dessus de m'avoir mis aucune pression par rapport à ça, mais je trouve dingue, c'est que je me suis mis cette pression-là, alors que mes parents n'étaient pas du tout dans cette pression. Alors, je sais pas si j'avais déjà un regard sur la société.
Moi, je pense que le poids est tellement lourd que...
Ouais. Je sais pas, mais voilà. Donc, ces situations-là, quoi. Et après, maintenant, voilà, j'ai 37 ans. Je suis carrément fière d'être une femme, quoi. Même si, sur mon allure vestimentaire, ne revendique pas le stéréotype de la femme qu'on peut entendre par... ce qu'on peut entendre, quoi, mais dans aucun cas, je remets en cause mon genre, en fait. Je suis carrément fière. Et voilà. Et du coup, ça a eu un impact sur aussi mon orientation sexuelle, toutes ces questions-là. Voilà. Après, je sais pas. Moi, en fait, ça a été quand je dis en 2009, c'est aussi... sur mon style, par exemple, sur nos styles vestimentaires, j'étais carrément fière de pouvoir montrer mon côté androgyne, tu vois. J'ai un peu cultivé mon look, je sais pas, c'est des périodes où on se lâche un peu, c'est pas la crise de la quarantaine, c'est la crise de presque la trentaine. Et voilà, j'étais fière de dire je suis une femme et pour autant, j'ai déjà d'autres codes et voilà. Et voilà.
Donc ça, t'as été tranquille avec ça, avec le fait d'être cette femme-là, vers la vingtaine, vers la trentaine?
Bah 25, 26 ans, ouais, quoi, c'est ça. Bah voilà, en fait, comment dire? Je pense que à mes 20 ans, quand j'étais notamment avec François et ce groupe d'amis, c'est que j'avais peur de rentrer dans un schéma qui ne convenait pas. Et que je voyais trop un schéma hyper hétéronormé, en fait, de la vie que j'allais avoir si je continuais comme ça, en fait. Et du coup, je me suis carrément renfermée, j'étais un peu ronchon, je pense. Un peu en colère. Et, ouais, je sais pas. Je trouve plus trop mes mots. Je suis désolée.
Faut pas.
Ça va un peu dans tous les sens, carrément, même, mais je crois que voilà, j'ai eu des étapes dans ma vie. Il y a eu l'état de mon enfance où je me questionnais qu'est-ce qu'être une fille et qu'est-ce que doit être une fille. Et après, la question surtout de mon orientation sexuelle et mes attirances vis-à-vis des personnes du même sexe que moi.
Ça, cette question, elle s'est posée que quand t'étais avec Françoise, du coup?
Non, ça, je pense que c'est des questions que je me suis toujours posées, tu vois, je pense qu'il y a plein de lesbiennes aujourd'hui qui se rendent compte qui ont le même sentiment que, enfin, voilà, on pouvait trouver des actrices qu'on voyait à la télé très jolies et qu'en fait, on les trouvait vraiment très jolies et qu'on se disait, quand même, c'est un peu bizarre d'avoir autant cette attirance pour, moi, c'était, à l'époque, c'était Charlotte Gainsbourg où j'étais trop fan, quoi. Je me disais, mais elle est trop, enfin, vraiment, et je me disais, c'est pas trop normal, je pense qu'il y a un petit souci. Voilà, mais...
Et Charlotte Gainsbourg, du coup, t'es au collège à ce moment-là? T'es au lycée?
Bon, au collège, même avant le collège, hein, je crois que c'est... Mais voilà, enfin... Je crois qu'en fait, le moteur, c'est quand t'arrives à affirmer cette différence que t'as et à en être fier, en fait... d'être différent des autres et presque t'as envie de le crier sur les toits, en fait, de Ça, c'est un peu comme quand t'es ado et que tu veux montrer ton style, quoi. Tu dis, je suis punk, et voilà, je vous montre, je le montre dans mes vêtements, dans ce que j'écoute, je vous impose un peu ce que je suis, quoi. Et, bah, en fait, ça libère, en fait, c'est trouver son identité, quoi.
Je peux continuer à te poser des questions.
Ouais, vas-y, parce que.
Du coup, t'es avec François, tu te poses des questions sur. L'identité de genre, c'est réglé à peu près, de ce que j'ai compris
à ce moment-là. Ouais.
C'est juste là que ça commence à titiller les questions d'hétéronormes.
C'est clair.
Et du coup, par quel processus tu passes? Enfin, est-ce que tu te souviens? À quoi tu penses? Comment tu t'imagines? Enfin, j'entends, tu dis que t'as vraiment peur de rester enfermé dans ce schéma-là. Et qu'est-ce qui se passe?
Bah déjà la question de la sexualité en elle-même, moi ça me faisait très peur d'avoir une sexualité avec un garçon. C'était vraiment, ça m'effrayait. Et du coup je m'étais même presque persuadée que en fait j'avais pas envie de sexe avec quelqu'un, qui que ce soit, et que c'était juste comme ça. J'étais un peu asexuée, quoi, et que. Qu'est-ce qui se passe dans cette période-là? Bon, en fait, je suis complètement perdue, hein. Je pense vraiment. Je suis avec quelqu'un qui est adorable, hein, qui est hyper gentil, mais que je rends triste, que je rends malheureux. Donc, du coup, je m'en veux. Enfin, du coup, je suis dans la grosse culpabilité. Je rentre dans un schéma où je présente cette personne à ma famille, qui adore cette personne. Voilà, on rentre dans le truc, on va manger chez les parents le dimanche midi. Enfin, voilà, c'est. Quand j'y pense, c'est horrible pour moi de penser à ce truc-là. Enfin, ouais, on fait les fêtes de Noël ensemble, dans nos familles respectives et tout ça, que je fais aujourd'hui avec ma compagne, hein, mais je sais pas, là, c'était... J'avais vraiment l'impression, je crois, de me soumettre à quelque chose qui était pas... Bah, puis alors que c'était pas du tout... François n'est pas une personne vraiment qui est pas du tout dominant et qui a toujours été dans le respect et tout ça. Mais vraiment de me soumettre à pas un homme, à une vie d'hétéro, quoi. Et ça, je crois que c'est ma grosse colère, quoi. Ouais, c'est ça ce qui se passe. Je crois que j'avais l'impression de me soumettre et c'est marrant, hein, ça va paraître peut-être ridicule, mais dès que je me suis séparée de François, tout de suite je suis allée sur des. Alors que je réfléchissais pas vraiment à ma sexualité, hein, je me disais pas, je suis peut-être lesbienne et tout ça. Mais tout de suite, je suis allée sur des sites de rencontres entre femmes. Je regardais des séries lesbiennes. Voilà, et ça me... Enfin, c'est comme si En fait, moi, The L Word, ça a été... c'est con, mais ça m'a vachement aidée, en fait. Et la représentation de la lesbienne dans les médias aussi, c'est hyper important. Enfin, moi, ça m'a... D'ailleurs, le podcast que tu fais peut être hyper important, justement, pour des personnes qui sont dans les questionnements. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et
Donc tu t'étais jamais vraiment posé de questions sur ton orientation sexuelle, c'est ça que tu viens de dire?
Ouais,
ça devient clair tout à coup quand
ouais,
même.
Voilà. Et en fait, j'ai rencontré plusieurs personnes. Donc à ce moment-là, je me sépare de François, je finis mes études et je pars à Paris. Et directement à Paris, je rencontre notamment une femme, qui ça a été très rapide, mais la sexualité était évidente, l'envie du corps d'une femme, enfin c'était naturel, quoi. c'était une renaissance presque, en fait, vraiment une renaissance. Et même, enfin tu vois, ça faisait 3 jours que je connaissais cette femme, j'ai demandé à mes frangines, on se fait une visio ce soir, j'ai un truc à vous dire. Et elles étaient toutes en stress, mais elles savaient très bien ce que je voulais leur dire, en fait. Mais puis j'ai dit je suis avec quelqu'un, je suis mais c'est une femme, voilà. Et puis elle me dit, Émilie, ça ne surprend pas, puis en fait il n'y a pas de problème, en fait. Et du coup j'ai chargé mes frangines d'en parler à mes parents. Et tout de suite ma mère m'a rappelé en me disant, parce que j'arrivais pas, enfin ça me paraissait trop solennel, et puis moi j'ai une confiance énorme en mes sœurs, quoi. Et ils m'ont rappelé, et puis ils m'ont dit un peu ce que tu as vécu aussi. C'est à ces moments-là où tu te dises l'amour qu'ils ont pour toi, alors qu'ils t'ont jamais rien dit auparavant, en fait. Mais ils te rassurent en disant que ça change absolument rien, et voilà, quoi. Donc voilà, ma nouvelle vie commence. Cette fille, bah voilà, c'est une histoire un peu particulière. On s'est séparés très très vite parce que voilà, avec ses difficultés, et que j'étais pas dans une période où je pouvais gérer les difficultés de quelqu'un d'autre. Bah, déjà que moi je gère ma nouvelle ma nouvelle situation. Et après voilà, j'ai rencontré une autre femme avec qui j'ai vécu une histoire, une belle histoire aussi. Et là, ça a été l'évidence, quoi. Et là, envie de montrer à tout le monde, de tenir par la main ma compagne, de l'embrasser devant mes potes qui m'avaient jamais vu avec une femme, et puis de pas du tout avoir honte, quoi. Vraiment. Et là, et autant quand j'étais avec François, j'avais presque honte de lui tenir la main parce que je me sentais l'imposteur, quoi. C'est ça. L'imposteur. Imposteur, imposteur. Au féminin, je sais pas.
Impostrice.
Impostrice, je sais pas. Bref, voilà. Donc, bah voilà. C'est ça mon histoire. Et après, bah, c'est fait de, comme la vie de chacun, d'histoire amoureuse, de séparation, de douleur, de joie, de rencontre.
De mariage.
De mariage, oui.
Tu raconte-moi ça.
Ah oui, parce que là, il y a aussi bon, il y a eu la période du mariage, de l'adoption de la loi pour le mariage homosexuel. Donc je sais plus c'était quelle année, je sais pas.
2013.
2013.
2012, 2013. Par là.
Ouais. Donc à cette époque-là, j'étais avec Maude. Donc on vivait ensemble, tout ça. Et c'est vrai que nous, on a vécu, enfin surtout moi, je pense, parce qu'elle elle était plus assumée depuis plus longtemps et elle a toujours su en fait qu'elle était lesbienne. Mais moi, ça a été une violence extrême, quoi. Les mouvements des manifs pour tous et la médiatisation de tout ça, des gens qui étaient qui avaient aucun complexe par rapport à leurs idées homophobes, en fait. Et bah là, c'est à ce moment-là, j'avais tellement besoin de sentir que mes proches me soutenaient là-dessus. J'ai été déçue de beaucoup d'amis, alors que eux, en fait, c'était. Ils n'ont pas fait un combat personnel, ils n'ont pas eu de propos homophobes, mais j'étais presque en colère qu'ils n'aillent pas en manif pour me soutenir, en fait. Et ça a été une période hyper difficile, mais là, du coup, c'était cool, parce que enfin, ma mère est venue en manif à Paris, c'était sa première manifestation. Elle est venue en car avec l'assaut LGBT de Angers. Ça a été toute une découverte, elle est venue avec mes deux sœurs. C'est trop bien, j'étais trop contente. J'avais le soutien de ma famille, et en fait, avec Maude, on était bien à ce moment-là, et on s'est dit. Bah, c'était presque, on s'est mariés, du coup. Pas pour des raisons, enfin, moi, je m'étais jamais dit que j'allais me marier, mais c'était pour un peu militant aussi de se dire, bah, on l'a obtenu, bah, on va leur montrer aussi que, bah, voilà, on y va, quoi. Et voilà. Donc, on s'est mariés. Très belle fête. Enfin, voilà, ça nous ressemblait très bien. Et on est restés, mariés, 1 an. Puisque au bout d'un an, bah, enfin, moi, on avait décidé de revenir sur Rennes. Et moi, je suis arrivée à Rennes un peu plus tôt. J'ai rencontré Oriane dans le cadre de mon travail. Et on s'est liés d'amitié et tout ça. Et au bout d'un moment, voilà, ça a un peu dévié. Et puis, on est tombé amoureuse. Et puis, après, il y a un timing un peu plus long que ça. Hein, mais bon, après, moi, du coup, ça n'allait plus avec Maude. Bah, on a mis fin à notre histoire. Et du coup, bah, après, un peu de temps après, là, moi, j'ai commencé à vivre mon histoire avec Oriane. Voilà. À Rennes. Et c'est ma nouvelle vie d'aujourd'hui. Mais, voilà. Donc, je vis une vie assez banale pour le coup, de tout coup de personne qui fait des rencontres, des séparations, des choix de vie, qui se séparent, voilà. Enfin, des moments. Plus difficile que d'autres.
Et qui fait des Noëls avec
et qui
la
fait
belle
Noël,
famille.
Toujours avec les belles familles.
Mais pas
qui...
des repas le dimanche midi.
Pas des repas le dimanche midi. Mais si on était plus proche de la famille, on pourrait le faire, les repas le dimanche midi. Mais du coup, je me sens à ma place. Parce que, en plus, je suis contente de venir avec ma compagne, en fait. Ça fait parce qu'elle fait partie de ma famille et que, voilà. C'est pas la même, en fait. Donc, alors que ça peut paraître très hétéronormé, ce genre de choses, mais en fait, c'est juste la vie de famille aussi. Mais je me souviens que je disais à France, à l'époque, quand j'étais à France, je disais tout le temps, parce qu'il faisait du foot, et en plus il faisait du foot, donc ça. Et je lui disais toujours, mais je ne serais pas cette femme qui t'attend le dimanche après-midi avec sa poussette autour du terrain de foot, quoi. Ça, c'était, genre, c'était pas possible, quoi. Et voilà. Et donc là, là, j'affirme encore ma, enfin, aujourd'hui, je pense que je suis moins dans un, dans le, enfin, autant quand j'étais à Paris, j'essayais d'aller un peu dans le milieu homo, faire les fêtes LGBT, enfin voilà, tout ça. Aujourd'hui, on côtoie quand même un peu le milieu homo, mais c'est nos amis vraiment qui ont aussi, qui sont aussi homo, mais je suis moins dans la communauté. Ça me manque des fois, mais je m'affirme différemment en tant que lesbienne. J'ai pas besoin de faire partie d'un, enfin, je sais, j'ai voilà, d'avoir besoin d'une, j'ai moins besoin de cette appartenance à un groupe en fait. Maintenant, je me sens comme tout le monde. Voilà, je sais pas comment dire. Mais...
T'as réintégré la banalité.
Ouais, c'est ça. Yeah, j'ai une vie banale, voilà. C'est ça. Mais j'en suis contente de ma vie banale parce que.
C'est très reposant. Hein.
Ouais. Ouais, ouais.
Puis elle est pas si banale.
Mais j'imagine bien. J'imagine.
Non, elle est pas si banale, non.
Ouais. Mais elle est normale. C'est ouais. Ta vie, quoi.
Ouais, ouais. Je fais mes choix. Enfin, on fait nos choix. On fait des projets. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains projets. Voilà, c'est la vie banale.
C'est ça.
Ouais. Et j'ai eu ce combat-là de m'affirmer lesbienne, tout ça. Maintenant, c'est bon. Et j'ai un autre combat aussi qui est arrivé aussi quand j'ai 30 ans, où j'étais diagnostiquée aussi maladie de Parkinson. Donc aujourd'hui, c'est aussi un autre combat que j'ai à mener, on va dire. D'essayer de vivre ma vie le plus possible, le mieux, pendant que je suis bien. Et voilà, c'est un autre combat, parce que ça inclut aussi d'autres questionnements dans notre couple, dans ma vie professionnelle, dans mes choix que je peux faire. Et, mais là, c'est un autre sujet.
Si tu as envie d'en parler, c'est possible, c'est pas obligé.
Ça fait partie de mes petites particularités dont maintenant je suis presque fière de me dire voilà, c'est mes petites originalités, je suis lesbienne, parkinsonienne et voilà, je me marre avec ça aussi. J'aime bien. Voilà. Et après, c'est vrai que j'ai pas raconté ton histoire avec Oriane, mais parce que peut-être qu'Oriane va plus raconter notre histoire puisque c'est un autre parcours. Je sais pas. Moi, j'ai raconté un peu l'avant Oriane, et Oriane racontera peut-être du coup ce qu'on ressent.
Sauf si t'as envie de dire ton point de vue, parce que le sien est forcément différent du tien. Et puis, je vais pas publier deux interviews en même temps.
Ouais. Oui, parce que Oriane, avant d'être avec moi, a vécu en couple a vécu des histoires avec des hommes, même si elle avait des petites histoires avec des femmes, mais vraiment, sa sexualité, pour elle, elle était hétérosexuelle. Donc, moi, je pense que c'est qu'elle est tombée amoureuse de moi, pas parce que je suis une femme, mais parce que je suis moi, Émilie. Et du coup, moi, ça aussi, je sais pas. C'était différent parce que moi j'ai toujours, enfin de mes autres histoires, parce que moi j'ai vraiment été, mes longues histoires ont été avec des femmes qui ont toujours été avec que des femmes, qui ont même pas eu un passé hétérosexuel. Donc là c'était un peu nouveau pour moi. Peut-être en termes de, c'est con parce que du coup je me soumets aussi, tu vois, je me resoumets. Une question de manque de confiance en moi par rapport du coup à ce truc-là, de me dire. Est-ce que je pourrais lui apporter, est-ce que peut lui apporter un homme, alors que c'est, je peux lui apporter beaucoup mieux qu'un homme, mais je sais pas, un côté où je me dis, enfin voilà, je sais pas. C'est toutes ces, ouais, c'est ces questionnements-là que j'ai eu par rapport à pourquoi elle était attirée par les hommes. Tu vois, ça a été.
Et par ces hommes en particulier.
Par ces hommes. Non, pas ces hommes. Pas, ben voilà, je connais pas tous ses ex, genre et je suis amie avec un de ses ex et que ça se passe très bien, donc je ne suis pas dans ces questionnements là par rapport à lui, mais sur d'autres histoires, ouais, je suis surprise et je suis jugeante, je pense, sur que je ne l'aurais peut-être pas été si c'était des femmes. parce que il me renvoie à ce que je ne suis pas. Peut-être, je sais pas. Quelque chose comme ça. Ça, c'est aussi une autre histoire. Voilà, c'est une histoire de jalousie, mais parce que c'est un homme, je pense, parce que j'ai jamais été quelqu'un de jalouse. Enfin, en tout cas, ça m'insécurise complètement. Ouais, voilà, c'est ça, ça m'insécurise. Je pense que c'est...
Je sais pas comment dire les choses. J'ai rencontré beaucoup d'hommes ou de femmes qui sont très insécurisés sur leur partenaire à des relations avec des gens, enfin, des deux genres. Et ça m'a toujours beaucoup questionnée. Mais du coup, c'est ça que t'es en train de dire, toi, que c'est parce qu'elle a été avec des hommes et qu'elle peut être attirée par un homme.
Ouais.
Que ça te met dans l'insécurité de qu'est-ce que je peux offrir. Mais c'est pas tout à fait ce que j'entendais chez les autres, mais toi, c'est ça que ça vient réveiller, non?
Je sais pas. J'ai l'impression, enfin, c'est que j'ai tellement été fière, moi, de m'affirmer en tant que lesbienne, que presque des fois, je me dis que j'attendais peut-être de rien qu'elle soit affirmée en tant que lesbienne, alors que je peux pas lui demander ça. Et pourtant, elle est très engagée dans le, pour le droit des femmes et tout ça, féministe et tout ça, mais en fait j'ai l'impression que c'est vraiment con, hein, mais j'ai peut-être ce rapport où j'ai l'impression que les femmes qui sont avec des hommes, elles se soumettent aux hommes, mais c'est ça. Et ça, ça m'embête. Ça me rend triste, en fait. Et ce qui est complètement faux, parce que dans mon entourage, j'ai plein de couple hétérosexuel où aucun des deux n'est soumis à qui que ce soit, mais je sais pas, j'ai ce truc où la domination de l'homme, alors que tu vois, à un moment donné, je te parle de quand j'étais petite et que je voulais être un garçon et que parce que j'étais libre, je sais pas. Alors là, je pense que c'est une thérapie que je dois faire moi-même de mon côté, quoi. Donc je vais pas régler ça en une interview, mais...
Je ne prétends pas ça, en effet.
Ouais, non, mais en fait, je sais pas. En fait, je pense que c'est vraiment de la pure jalousie, la mauvaise jalousie, en fait, celle qui te rend mal, en fait, où t'es pas fier de toi, en fait, et tu te t'auto-flagelles toi-même, en fait, en pensant à ces choses-là. Et voilà, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est facile pour rien d'entendre ça.
J'entends, je découvre pas en tout cas.
Oui, tu découvres pas. Non. Voilà.
Merci. J'ai à peu près 15 000 questions, est-ce que...
Vas-y.
Ouais.
Si ça peut être intéressant pour toi.
Moi, tout m'intéresse. Après, je sais pas ce qui intéresse les autres, du coup, je pose les questions qui m'intéressent moi. Quand tu croises une nouvelle personne... Milieu professionnel, milieu amical, est-ce que c'est important pour toi de lui faire savoir d'une façon ou d'une autre, plus ou moins rapidement, que t'es lesbienne?
Ah oui, carrément.
Et ou parkinsonienne,
ouais.
Pour le gars.
En fait, ouais, carrément. Les deux, en fait. Ouais, assez vite, quand je rencontre des gens, je vais te dire ma compagne, et tout ça. En fait, je suis carrément... Puis, ouais, je veux le dire, en effet. Même pareil pour la maladie, en fait. Comme si je me justifiais aussi peut-être de comportement ou de manière... que je confirme ce que je peux montrer en moi. J'ai un look hyper féminin, je suis comme ça parce que je suis lesbienne aussi, je confirme ce que je suis. Et Parkinson, c'est pareil, je peux avoir des gestes ou un peu saccadés ou bafouillés, c'est aussi parce que je me justifie un peu. Mais c'est hyper important pour moi, oui, de dire. Et je trouve ça hyper important de le faire. D'affirmer.
C'est une façon de militer?
Ouais, carrément. Carrément.
Et du coup, tu le fais depuis le début?
Ouais. Direct, ça a été... je l'ai affirmé direct, ouais. Parce que c'était vraiment... Voilà, c'était évident. C'est moi, donc c'est... Je vois pas... Là, je peux plus me mentir, en fait. Donc, je vois pas pourquoi je mettrais ça. Après, c'est le plus, je travaille dans le social. J'ai travaillé dans le social, maintenant j'ai arrêté, mais par contre, je travaille avec le public migrant, et là, ça, Des fois, ils me posaient des questions un peu plus personnelles, et là, du coup, j'étais un peu plus vague, parce que des fois, dans les différences de culture, enfin, j'ai toujours peur que ça puisse un peu fausser la relation professionnelle. Ce qui est dommage, d'ailleurs, parce que il faudrait affirmer aussi son homosexualité à des gens qui ont fui un pays où il y a des discriminations importantes liées à l'homophobie, qui, du coup, montrer aussi que, bah, là, ils arrivent en France, qu'il y a des droits, tout le monde a les mêmes droits, et qu'il y a normalement pas trop de discrimination pour... Mais voilà, c'est juste auprès du public que j'ai accompagné, même quand j'étais dans le handicap, je le disais pas non plus. C'est tout, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs je le disais pas. J'arrive pas à... Renza, tu pourras en parler aussi toi, mais tu as vécu les mêmes choses. Mais par contre, les collègues, tout ça...
Et t'as eu des réactions désagréables ou ça s'est toujours bien passé?
Ça s'est toujours bien passé. J'ai eu très peu de propos homophobes ou des choses comme ça. Enfin, des remarques dans la rue, des fois reloues, mais de gars qui sont, quand tu marches dans la rue avec ta compagne et qui te propose un plan à trois, c'est pas... voilà. Mais autrement, j'ai jamais eu de... Je pense pas. T'as jamais été témoin de ça.
Toutes les deux, non?
Non.
Une fois à la plage.
Une fois à la plage. Mais voilà, non, moi, ça, c'est toujours... J'ai jamais eu de... Enfin, plus mes parents, je pense, des propos par rapport à des oncles et tantes qui ont peut-être pas été très malines. Malins. Qui, eux, ont, du coup, dû justifier les choses, mais... moi, j'étais pas là. Mais pas non plus violent, quoi.
Ouais, tes oncles et tantes n'ont pas parlé à toi.
Oui, non, mais il y a eu des petites remarques un peu désagréables, je pense. Mais après, j'ai pu revoir ces oncles et tantes-là, mais il n'y a jamais eu de soucis, en fait. Jamais de jugement ouvertement devant moi. Puis, en même temps, ça m'importe peu. Moi, j'ai mon petit cocon, ma famille proche, mes parents, mes frangines, Oriane, la famille d'Oriane aussi font partie de mes amis. Voilà. C'est ma petite famille, ça, maintenant.
Et je pose toujours les mêmes questions à la fin, c'est toujours les mêmes choses qui m'intéressent. Tout à l'heure, tu as parlé d'avoir plongé dans les séries, dans la culture queer, et tu as nommé The L Word. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été vraiment nourrissantes et importantes?
La musique, carrément la musique.
Fais-moi découvrir des nouvelles choses.
Ah bah, je pense que je vais pas te faire découvrir de nouvelles choses, parce que c'est hyper connu. Enfin, moi, Mansfieldia, par exemple, ça a été ma... pareil, hyper important pour moi. Enfin, je suis arrivée à Paris, c'était en 2009, je les ai vus en concert, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Enfin, c'est vrai, pour moi, c'était la culture queer par excellence, quoi. Puis, moi, j'adore la musique, hein. Je joue pas d'instrument, mais j'écoute beaucoup de musique, et ça fait partie d'une musicienne, enfin, c'est une musicienne, voilà, qui fait partie de ma culture, en fait, homo. Et d'ailleurs, pour la petite blague, enfin, c'est pas une petite blague, c'est que, à ce concert-là, de Mansfieldia, on y est allé il y a pas longtemps, et il y avait ce fameux garçon qui était Oriane, que je ne supporte pas, qui était là, et j'ai l'impression qu'il était dans mon univers et qu'il avait rien à faire là, quoi. Voilà. Et là, j'étais très en colère, ça m'a énervé, ça m'a pourri le concert, alors que j'avais très envie de les voir. Je crois que c'était dans les derniers concerts qu'elle avait fait à son plus. Je me suis gâché mon moment, toute seule.
Notre
moment. Mais voilà, ouais, musicalement, il y a plein de groupes Soko, tout ça. Enfin, il y a plein de groupes musiciens. Ben, des séries, après, on a regardé un petit peu des séries, mais féminin. J'avais bien aimé. Une web série québécoise, qui m'avait bien parlé, parce que, voilà. Mais en fait, je trouve ça hyper important de banaliser, en fait, pas de banaliser, mais c'est con, hein, parce que moi, je mets toujours l'exemple de Plus belle la vie, qui est une série où toutes les mamies regardent ça, et je trouvais ça cool donc que les mamies regardaient une série où il y avait des homos dedans et que ça banalise un peu la situation, et que finalement, je trouve que c'est hyper aidant, en fait, pour la communauté, d'avoir, la visibilité homosexuelle dans les médias, en fait, c'est hyper. Mais aujourd'hui, je trouve que ça se fait vachement plus, quoi. Mais moi, ça m'aurait vachement aidé, hein, parce que je me souviens quand j'étais gamine, dès que je voyais deux femmes s'embrasser à la télé, c'était...
T'en as vu?
Oui, dans des, oui, ça arrivait des fois dans des films, enfin, je sais plus, j'ai pas l'exemple de film, mais.
Quelle chance!
Ah ouais, t'as, ouais?
Jamais.
Ouais, ouais.
Bah, avant The L Word, jamais. Ouais.
Si, si, il y avait, je me souviens d'un feuilleton que j'avais regardé, que ça m'avait. Ouais, t'as, ouais. Mais il y a une Farmer aussi, quand même, dans ses clips.
J'ai pas vu beaucoup de ses clips.
Ouais. Non, mais voilà, moi, je trouve ça, ça aide aussi. Ça m'a aidé. Mm. Et, en culture musicale, je sais pas trop. Bah, je trouve que, voilà, c'est, ça fait partie de la culture queer, c'est la musique, la fête, la... Mm. Mais je suis désolée, je peux pas te...
Ah non, mais c'est super, déjà. De... Mais si, mais si, mais si. Mm. Jamais écouté Soko.
Mm, Soko, c'est cool aussi.
Mm. Est-ce qu'il y a autre chose qui te paraît important de dire et qu'on n'a pas pensé à évoquer?
Tu me regardes, mais...
Bah, je sais pas. C'est...
Elle cherche l'inspiration.
C'est ça.
Bah, je sais pas. Après, j'aurais pu parler beaucoup plus de l'histoire avec Oriane, mais je, comme Oriane va parler, je laisse un peu le suspense pour les... sur notre histoire. Je pense que tu en parleras bien. Voilà. Non, mais non, j'avais pas d'autre chose à ajouter. Je pense que j'ai quand même bien élargi. Je pense que j'ai tout abordé. Je pense qu'il ne manque rien.
Ça fait un sacré teasing pour la prochaine interview. Mmh. Hein. Tu vas avoir la pression.
Ouais, ouais. Voilà. Bon, ouais, voilà.
Ok, bah, merci beaucoup.
Ouais, de rien.
Une petite précision apportée par Émilie juste après la fin de l'interview.
Les gens de voir les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller manifester pour des droits, genre les... et qui, eux, avaient besoin de manifester dans la rue pour empêcher que d'autres personnes aient des droits, pour le mariage. Je trouvais ça fou. Enfin, c'est comme si j'allais dans la rue pour empêcher... on peut pas aller dans la rue pour empêcher des droits, en fait. Les droits, c'est anti... valeur de manif, quoi. Non, c'est pas possible. Moi, je comprends pas ça. C'est comme les manifs anti-avortement, tu vois, c'est... c'est vraiment la garder ses privilèges, quoi. Enfin, voilà, c'est, je trouve ça tellement fou. Ça me met énormément en colère, quoi. Enfin, il y avait quand même plus de gens à aller manifester pour empêcher le mariage pour tous que là pour aller lutter contre la retraite contre la retraite à 64 ans, tu vois. Enfin, ou des choses comme ça, ou l'environnement, tu vois. Les gens vont plus dans la rue pour aller pour ça que pour l'environnement, tu vois. Voilà, on est.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram @comingincomingout. À bientôt.